Bonsoir à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les lanceurs d'alerte sont-ils une arme géopolitique ? L'avocat de Julian Assange va porter plainte. Devinez pourquoi ? Son client est victime d'une fuite de données. Des milliers de documents qu'il concerne auraient été interceptés et divulgués. Il s'agit tout à la fois de textes, d'écoutes, de documents vidéo sur sa vie privée et la préparation de sa défense. L'avocat soupçonne le personnel de l'ambassade d'Équateur à Londres, dont son client a été expulsé le 11 avril dernier. Certains s'amuseront de l'arroseur arrosé concernant le spécialiste mondial de la fuite de données. D'autres s'en amuseront moins car on ne sait pas ce qui attend Julian Assange, visé par une demande d'extradition de la part des États-Unis. Alors que Donald Trump semble avoir tiré parti de WikiLeaks pendant la campagne présidentielle, il préfère aujourd'hui s'en laver les mains. Julian Assange trouvera peut-être plus de soutien auprès de la Russie qui a dès son arrestation accusé Londres, je cite, d'écraser la liberté. Mais il devient difficile de comprendre quels intérêts servent les chevaliers blancs des données, des papers, des files et autres leaks. Certains États en ont peur, d'autres essayent de les séduire et en la matière, le vent tourne vite. Alors les lanceurs d'alerte sont-ils utilisés comme une arme géopolitique ? Nous en débattrons jusqu'à 19h avec nos trois invités. Bonsoir Florent Parmentier.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur associé au Centre de Géopolitique de HEC. Vous avez co-créé le blog eurasiaprospective.net et vous travaillez notamment sur la sécurité et les politiques d'influence. Bonsoir Philippe Vasset.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, vous êtes journaliste, vous coordonnez les enquêtes d'Indigo Publications qui regroupe Intelligence Online, dont vous avez été rédacteur en chef, La Lettre A, La Lettre du Continent, entre autres. Vous aviez aussi écrit un livre en 2017, Armes de déstabilisation massive, enquête sur le business des fuites de données avec Pierre Gastineau. Et notre troisième invité ce soir, c'est vous Jean-Philippe Feuglet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant en droit public, coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. C'est une organisation de la société civile qui a été créée l'année dernière, qui travaille à la protection des lanceurs d'alerte. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Julian Assange ? Il devait être transféré au lendemain de son arrestation au tribunal de Westminster le 12 avril et on sait rien depuis.
Malheureusement, on n'en sait pas plus que vous. On aimerait bien en savoir plus parce que le sort de Julian Assange nous intéresse beaucoup en tant que maison des lanceurs d'alerte. Même si Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte, c'est plutôt un patron d'une nouvelle agence de presse, d'une agence de presse d'un nouveau type. Les poursuites contre Julian Assange menacent les sources des journalistes, donc menacent les lanceurs d'alerte. Donc malheureusement, on ne sait pas où on en est actuellement. On sait que la question se pose de savoir si celui-ci sera extradé en Suède ou vers les États-Unis, mais à ce stade, sachant que le Royaume-Uni a une culture du secret très forte, lorsqu'on touche à la question du secret défense, on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle.
Pourquoi maintenant, Florent Parmentier, Julian Assange, j'étais depuis 7 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres, pourquoi maintenant ? Pourquoi l'Équateur a lâché Assange ? Ça peut se résumer comme ça.
Bon, je pense que ce lâchage s'explique très vraisemblablement et très directement par l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire que quand M. Assange a été accueilli en Équateur, enfin dans l'ambassade d'Équateur à Londres en 2012, Rafael Correa est alors président du pays et il est visible que son successeur, Lénine Moreiro, n'est pas sur la même ligne politique. Et il est aussi tout à fait visible, en fait, là, il n'y a pas besoin d'avoir de révélations particulières à ce niveau-là, pour voir que dès le lendemain de l'arrestation, en tout cas du lâchage de Julian Assange, de nouvelles lignes ont été votées au FMI pour l'Équateur, et donc le lien de cause à effet n'est pas très difficile à établir.
Un emprunt de 4 milliards et 200 millions de dollars, et c'est pour ça que l'Équateur voudrait se montrer peut-être irréprochable en rendant, entre guillemets, aux États-Unis un justiciable que les États-Unis voudraient juger.
Quand on connaît effectivement le poids des pays européens, mais surtout des États-Unis au sein d'une structure comme le FMI, le lien est extrêmement rapide à faire.
Qu'est-ce qu'il risque, Julian Assange, s'il est extradé aux États-Unis, Philippe Vasset ?
Alors, moi, je suis pas spécialiste en droit, donc je sais pas. Il y a ce que les États-Unis lui reprochent, c'est d'avoir participé avec un autre lanceur d'alerte au piratage de la base de données en fait du Département d'État.
Donc avec Bradley Manning, devenu Chelsea Manning.
Exactement.
Pendant son incarcération.
L'acte d'accusation qui le vise dit que en fait à un moment Bradley Manning est devant un mot de passe qu'il n'arrive pas à craquer et que quelqu'un de WikiLeaks et qui est supposé être Julian Assange, l'a aidé à manœuvrer. Et là, l'acte d'accusation repose là-dessus.
D'ailleurs, vous le suivez aussi, Jean-Philippe Feugle, Bradley Manning ou Chelsea Manning aujourd'hui, vous la suivez donc. Et aujourd'hui, le calendrier aussi, on peut parler d'un concours de circonstances, puisque Manning est retourné en prison récemment.
Oui, alors effectivement, Obama avait passé l'éponge sur la sentence qui avait touché Bradley Manning, qui était tout de même une sentence de 35 années de prison. Chelsea Manning est effectivement retournée en prison justement parce qu'elle a refusé de témoigner contre Julian Assange. Donc effectivement, ça prouve une fois de plus aussi que quand on attaque Wikileaks, on attaque finalement aussi toute la chaîne de l'information d'intérêt public. Quand vous attaquez un organisme comme Wikileaks, quand vous attaquez aux journalistes, aux plateformes qui diffusent les fuites, vous attaquez aussi aux sources. Et donc là, on voit très bien le lien de cause à effet. Il y a une source de Wikileaks qui est sortie de prison. On lui demande de témoigner contre Julian Assange, elle refuse, on la replace en prison.
On entend les défenseurs de Julian Assange dire qu'il risque, s'il est extradé effectivement, il risque la torture, voire la peine de mort. Est-ce que les États-Unis peuvent, entre guillemets, se le permettre, sachant qu'ils s'exposent aux critiques, dont celles de leurs alliés? Le monde entier avait considéré à l'époque les informations de WikiLeaks comme d'intérêt général.
Alors, je pense pas que les États-Unis hésiteront à condamner Julian Assange à plusieurs dizaines d'années de prison, pour deux raisons. La première, c'est que tout simplement, ce sera pas le pouvoir exécutif qui aura la main sur la procédure, ce sera le juge, et en particulier un juge particulier qui est un juge aux armées, qui est le même juge qui a condamné Chelsea Manning. On avait travaillé sur le cas de Chelsea Manning avec Open Society. On avait fait des recherches dans plus de 30 pays sur les lois pénalisant la révélation de secrets. On est parvenu à deux conclusions. La première est qu'effectivement, les États-Unis sont le seul pays où on peut placer en isolement une personne pendant des dizaines d'années pour révéler des informations secrètes dans l'intérêt public. Deuxième conclusion, les États-Unis, comme d'autres États, sont des États qui ne permettent pas à une personne poursuivie pour violation du secret de la défense nationale de prouver qu'elle a agi dans l'intérêt public. Dans la plupart des États démocratiques, on peut imaginer qu'une personne qui viole une loi sur le secret pour révéler des violations massives des droits de l'homme peut ne pas être assimilée à un espion, parce que l'Espionnage Act aux États-Unis a été adopté pendant la guerre contre des espions. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc nous, ce qu'on dit aussi, c'est que si Julian Assange est extradé vers les États-Unis, il n'aura pas accès à un procès qui correspond au standard européen du procès équitable. C'est pour ça qu'on cherche à s'opposer à son extradition. C'est à mon avis l'argument juridique le plus important pour s'opposer à son extradition.
Est-ce qu'on peut pas considérer aussi qu'un défenseur acharné de la transparence ne devrait pas craindre un procès pour défendre ses méthodes, Philippe Vasset?
Julian Assange est un peu le spécialiste d'être tout le temps des deux côtés d'un débat. C'est-à-dire que pour me faire l'avocat du diable, c'est quelqu'un qui est l'avocat d'une transparence généralisée, sauf quand elle le concerne. Vous parliez de coïncidence d'agenda. Moi, il y a une coïncidence qui me frappe quand même, c'est que il a été arrêté quelques semaines. Il n'y a aucune coïncidence, je pense, entre les deux, mais c'est juste une coïncidence d'agenda. Il a été arrêté quelques semaines après la publication du rapport Mueller, en fait, sur l'interférence de la Russie dans les élections américaines, qui accorde quand même une assez large place à l'action de Wikileaks et aux fuites de données qui sont passées par Wikileaks. Donc, d'un côté, le cliché d'un président qui a quand même été élu pas en large partie, mais disons, avec l'action de Wikileaks, qui a permis de blanchir de l'info et de la diffuser. Ça n'a pas été le seul véhicule.
Et fragiliser l'équipe de campagne de Hillary
Clinton.
Et
d'un autre côté, on a la justice américaine qui le poursuit. Donc c'est un peu, il y a une schizophrénie un peu généralisée.
C'est vrai que Donald Trump l'a complètement lâché en pleine campagne, Florent Parmentier.
Oui, c'est vrai que la personnalité de Julian Assange a été extrêmement polarisante dans le débat américain. On a des différences de génération. Les plus jeunes générations étaient généralement plus favorables à Julian Assange que les plus anciennes. Il y avait également un clivage politique derrière. La droite conservatrice était effectivement beaucoup plus dure sur ce qu'avait pu faire Julian Assange qu'une partie de l'électorat plus à gauche. Donc c'est une personnalité polarisante. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment finalement ce débat américain agit beaucoup en miroir par rapport aux États-Unis. Par rapport à la Russie, la relation entre la Russie et les États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a une vision par rapport à la Russie, qui est celle d'un État qui est dirigé par un président qui serait tout seul. Donc j'ai tendance à opposer pour ça dans l'analyse de la Russie les intentionnalistes qui pensent que Vladimir Poutine, dès le début, avait prévu d'utiliser Julian Assange à ses propres fins géopolitiques, et les fonctionnalistes qui sont plutôt dans l'idée qu'il y a plusieurs tours au Kremlin et donc il y a des arbitrages en fait à faire et que sur lequel le président russe peut être amené à arbitrer.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que on dit la Russie, mais que même au sein du Kremlin, il y a plusieurs services de renseignement qui ne cherchent pas tous la même chose et n'ont peut-être pas tous les mêmes intérêts. Philippe Vasset, lorsque vous aviez mené votre enquête pour votre livre en 2016-2017, pour vos interlocuteurs, pour nombreux d'entre eux en tout cas, il ne faisait pas beaucoup de doute que Julian Assange était un agent du Kremlin. Pour le dire vite, vous en étiez-vous moins convaincu?
Alors d'abord, c'est un livre qu'on a co-écrit, oui, avec Pierre Gatineau, et je pense que c'est le sujet sur lequel on a le plus débattu entre nous, parce que c'était le sujet le plus compliqué. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il y a vraiment un basculement. C'est-à-dire que jusqu'à une certaine date, Julian Assange opère, et Wikileaks opère un petit peu comme bon leur semble. Puis à un moment, la pression sur eux, venant des États-Unis notamment, s'intensifie. On leur coupe PayPal, ce qui leur servait jusqu'ici à lever des fonds.
PayPal, dont fait vivre, voilà.
Et à ce moment-là, ils sont très intelligemment approchés par plusieurs émissaires russes. Et c'est à ce moment-là que ça bascule, en fait. Mais ce qu'on dessinait, c'était plus un récit et quelque chose de très pointilliste que vraiment... on pense pas du tout que c'est quelqu'un qui a... ce qu'on raconte, c'est un terreau, en fait. Et puis, ce qu'on raconte, en fait, c'est une approche classique de renseignement, c'est-à-dire que plusieurs services russes se sont dit, là, il y a un coup à jouer. Les services sont toujours très opportunistes. Vous savez, c'est comme des courtiers. Et de fait, à un moment, ces courtiers en influence se sont dit, il y a un coup à jouer sur Assange, et ça a marché.
Alors, s'il y a un coup à jouer sur Assange, ça veut dire qu'Assange était un peu l'idiot utile de l'histoire. Jean-Philippe Feuglé, vous pensez que cette version est bonne?
Je le qualifierais pas nécessairement d'idiot utile. Je dirais qu'en fait, comme vous l'avez dit, il y a vraiment deux Wikileaks. Il y a le Wikileaks de 2008 à 2012, où Wikileaks cherche à s'imposer comme un organe de presse, et Wikileaks va travailler avec des journaux. Enfin, les premières révélations de Wikileaks, dans le cadre de ses premières révélations, à travers le Guardian, à travers le Monde, à travers Deep Site. Et puis après, effectivement, comme l'a dit Philippe Vasset, il y a une réaction très forte des États-Unis. Les États-Unis, évidemment, en raison du premier amendement qui interdit de toute censure préalable à la publication, ne pouvait pas interdire la diffusion de Wikileaks sur le territoire des États-Unis, et a donc effectivement coupé PayPal, a donc effectivement fait pression sur Amazon, a utilisé tout un tas de mesures paralégales, on va dire, enfin à la limite de la légalité, pour faire taire Wikileaks. Et c'est à ce moment-là que Wikileaks, en quelque sorte, se radicalise, et c'est là qu'il y a aussi beaucoup de... Et c'est de là que viennent aussi les réticences à l'égard de Wikileaks, c'est que Wikileaks va faire le choix de ne plus trier l'information, mais de publier en ligne des paquets de données, y compris des paquets de données qui peuvent recouvrir des données confidentielles sur des individus, comme par exemple Wikileaks a sorti les numéros de sécurité sociale de personnes, Wikileaks a sorti aussi a aussi révélé l'homosexualité de personnes qui est dans des pays où elle est réprimée. Donc je pense qu'il y a vraiment deux Wikileaks, et que le tournant, ça a vraiment été la réaction américaine à l'égard de Wikileaks. Il faut quand même se rappeler que le département d'État américain voulait inscrire Wikileaks sur la liste des organisations terroristes.
Et vous, à un moment, en tant que coordinateur de la maison des lanceurs d'alerte, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, nous on prend nos distances avec un personnage comme Julian Assange et son organisation?
Oui et non. À notre avis, en tout cas à mon avis, là je parle peut-être plutôt à titre personnel, c'est, j'ai des réticences à l'égard de Julian Assange pour les raisons que j'ai mentionnées, mais encore une fois, pour nous, protéger les lanceurs d'alerte, c'est pas uniquement protéger un individu qui va révéler quelque chose, c'est aussi protéger toute la chaîne de l'information. Donc c'est aussi protéger les personnes qui publient des informations, c'est aussi protéger les personnes qui aident les lanceurs d'alerte au sein d'une entreprise, c'est protéger aussi les codeurs qui créent des infrastructures sécurisées. Et pour nous, c'est vraiment une chaîne de l'information. Si vous rompez un maillon de la chaîne, le lancement d'alerte d'intérêt public n'existe plus.
Alors pour rester un petit instant sur les intérêts russes que d'aucuns soupçonnent Julian Assange d'avoir servi peut-être à son insu, a-t-il jamais révélé, Florent Parmentier, des documents un peu ou beaucoup embarrassants pour le Kremlin ou Poutine? Parce que Edward Snowden, lui, n'hésite pas, il est pourtant hébergé par la Russie, où il s'est réfugié, il n'hésite pas à critiquer la Russie. Mais là, pareil, peut-être qu'il faut se poser la question de l'opportunité pour lui de se prononcer là-dessus et de faire ses déclarations aujourd'hui ou depuis quelques temps.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a deux choses. D'abord, peut-on parler d'idiot utile, qui était l'une des questions qui était posée auparavant.
En tout cas, manipuler, quoi.
Voilà. Manipuler. Je pense que la manipulation a lieu dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, à partir du moment où PayPal n'est plus finalement un moyen de financer Wikileaks, il est évident qu'il faut trouver des sources alternatives. Et à ce moment-là, il y a un calcul d'opportunité des deux côtés, à la fois du côté du Julian Assange et aussi du côté d'un certain nombre d'autorités russes. Donc il y a pour ça, voilà, il y a peut-être une accointance, mais encore une fois, elle peut être analysée dans les deux directions. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être la manière dont la Russie finalement s'est positionnée sur ce créneau-là. Parce que faut penser qu'au début des années, enfin durant les années 90, finalement, la Russie a un internet qui est extrêmement spécifique. Google n'est pas le premier moteur de recherche en Russie. Il fait partie des quelques pays dans le monde qui ont leur propre moteur de recherche, leur propre technologie. Ils ont leurs propres réseaux sociaux. Donc finalement, sont relativement plus protégés de ce point de vue-là qu'un certain nombre de pays. Et il y a un discours autour de la souveraineté numérique qui est analysé notamment par des gens comme Kevin Limonier qui ont beaucoup travaillé sur le Runet. Il y a de ce point de vue-là, voilà, une spécificité de la Russie qui, à un moment donné, s'est décidé finalement à avoir un positionnement stratégique. C'est-à-dire qu'on est passé d'une sorte d'arriération économique du net russe à une forme de capacité à faire des acteurs souverains, et ensuite à finalement trouver un positionnement qu'on a retrouvé à la fois sous forme de manipulation d'informations et puis aussi de soutien de vraies informations pour le coup.
Vous voulez dire que certains États ont fait en sorte que la fuite de données ne soit plus qu'une menace pour eux, mais une opportunité, et qu'on a plus ou moins investi dans ce commerce, dans cette activité-là, et à la limite, on peut dire que ça coûte peut-être moins cher que d'investir dans l'armement, par exemple, pour la Russie.
Ça coûte moins cher, effectivement. C'est jamais oublier que le budget de la défense russe pèse un dixième du budget de la défense américain, et pour ça, ils sont obligés de faire un certain nombre de calculs. Le cyber est entré dans ces domaines de calcul, avec en plus peut-être un écosystème russe dans lequel finalement les bons codeurs ne vont pas aller vers la start-up, mais plutôt vers des enjeux de cybercriminalité qui, naturellement, plus lucratif dans ce contexte.
Philippe Vassel, la Russie, lors de votre enquête, vous êtes allé, vous êtes rendu, vous avez voyagé dans des pays qui ont créé cet écosystème, comme vous dites, Florent Parmentier, de la fuite de données. C'est le cas d'Israël, où vous êtes allé avec votre co-auteur, c'est le cas de l'Inde, où les hackers et ceux qui font fuiter les données n'ont pas pignon sur rue. Ce serait un petit peu excessif de dire ça, mais enfin, ou en tout cas, il est admis par tous que ça, c'est une réelle activité économique.
Alors, admis par tous, il n'y a pas des posters de l'autorité du commerce israélien disant « venez chez nous faire fuiter des données », mais... en fait, c'est un petit peu ce que vous expliquez, c'est-à-dire que il y a plusieurs pays qui se disent qu'il y a une opportunité stratégique, en fait, que ça coûte pas cher, que dans le cas d'Israël, par exemple, il y a quand même un déséquilibre stratégique énorme dans la région. Israël est entourée d'ennemis. Certes, elle a une défense puissante, mais enfin, elle est quand même face à des ennemis qui ont des soutiens importants. Et donc, du coup, Israël, comme l'Inde, investissent en fait ce créneau-là en se disant, encore une fois, il y a un coup à jouer, il y a une place à occuper, personne ne l'occupe. Au même moment, la Russie fait exactement le même. Enfin, on raconte dans le livre, on a été rechercher des travaux très académiques en fait d'officiers russes en fait qui se posent la question en fait quelle sphère il faut investir, etc. Alors c'est très abstrait, mais il y a plusieurs pays qui font le choix d'investir en effet le cyber, le vol de données, parce qu'en fait tout ce que notre livre raconte, c'est ce qui se passe avant que les données fuitent en fait.
France Culture. Du grain à moudre, Julie Gacon.
Les lanceurs d'alerte sont-ils utilisés comme une arme géopolitique? Nous sommes toujours avec nos trois invités, le journaliste Philippe Vasset, le chercheur en géopolitique Florent Parmentier et Jean-Philippe Feuglet, coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Alors, si on entend bien ce que vous dites, ce sont aujourd'hui les pays qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans la recherche et la fuite de données. Donc à la fin, ce sont toujours les mêmes qui gagnent, Florent Parmentier. C'est-à-dire que certains chercheurs disent aujourd'hui que c'est la démocratie qui espionne le plus et le mieux, que ce sont les pays riches qui espionnent le plus et le mieux, et que ce sont eux aussi qui se font espionner. C'est un jeu, c'est de l'entre-soi, c'est...
Alors, il y a un phénomène dans le digital qui est évident, c'est que plus votre économie est digitalisée, plus vous avez un nombre de personnes qui travaillent sur Internet, qui passent du temps sur Internet, plus l'enjeu en fait de vos données devient important. Et donc plus il y a des choses à piller. Ça c'est l'axiome de départ. Que les États-Unis qui attribuent les noms de domaine, qui accueillent un certain nombre d'institutions qui régentent Internet, soient avantagés dans ce cadre-là, c'est indéniable. Que les États-Unis aient une capacité de renseignement supérieure à la plupart des pays du monde, c'est indéniable aussi. Ce ne sont pas les seuls du reste. Il y a en matière de surveillance des technologies qui sont développées en Chine, la surveillance faciale, sur tout un tas de reconnaissance faciale et tout un tas de logiciels qui sont importants. La Russie, naturellement, a ses propres expertises et particularités en matière de renseignement. Peut-être ce qui viendrait nuancer ça, c'est le fait que l'une des particularités, notamment en matière de cybersécurité, c'est la difficulté d'attribution. On voit bien comment, dans certains domaines, il est difficile en fait de pouvoir dire avec certitude que c'est tel pays qui a agressé. On peut naturellement avoir des doutes, mais le prouver est un autre domaine. Et c'est précisément peut-être ce qui permet à un certain nombre d'acteurs moins importants de pouvoir jouer ce facteur d'égalisation de puissance, contrairement à d'autres armes, par exemple, comme le nucléaire, qui là est classe entre guillemets les pays entre eux.
Philippe Vasset.
Dans notre enquête avec Pierre, on faisait un parallèle très net entre cette asymétrie-là, en fait, la relative liberté en fait que permet justement cette difficulté d'attribution aux attaques et le système des guérillas dans les années 60 où en fait les États-Unis et la Russie sponsorisaient des guérillas un petit peu partout dans le monde. C'était pas forcément évident de savoir qui y avait derrière tel mouvement de guérilla ou tel mouvement terroriste ou paraterroriste, etc. Mais ça permettait de faire une guerre par acteurs interposés. Et dans l'univers cyber, c'est quand même beaucoup ce qui se passe. C'est une des choses qui nous avait fasciné et qui continue de nous fasciner, c'est la guerre que se livre dans le Golfe, le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite et les Émirats de l'autre. C'est que une guerre par fuite de données en fait depuis 4-5 ans. Il y a des piratages d'envergure entre les deux.
C'est peut-être ce qui a changé depuis votre livre. Ouais, ouais. C'est ce que vous observez.
Disons que ça s'est accéléré et industrialisé. Alors ce qui est drôle, c'est que je pense que tous les prestataires qui font ces fuites de données sont dans notre livre. Mais simplement, voilà, ils ont plus de business que quand on avait écrit sur eux. Et à chaque fois qu'il y a une fuite de données qui vise le Qatar ou qui vise l'Arabie, etc., évidemment, le Qatar et l'Arabie la revendiquent pas. Mais chacun sait très bien qu'en fait, ils sont derrière.
C'est vrai qu'on n'est plus dans le cas de figure des Pentagon Papers en 71, quand le New York Times dévoilait les coulisses de la guerre du Vietnam sur la base d'un seul document classifié, bon, 7000 pages quand même. Les scandales aujourd'hui émanent de fuites de données gigantesques, il y en a tout le temps, vous en étiez à 40 que vous aviez recensé, mais c'était pas une liste exhaustive à l'époque du livre, aujourd'hui il y en a bien plus encore, et qui touchent au secret défense aussi bien qu'au secret bancaire d'ailleurs. Philippe Vasset, vous étiez avec Pierre Gastineau remonté aux sources de ce que vous décriviez comme un écosystème de la fuite de données, mais un monde où les grandes entreprises, les capitaux n'étaient jamais très loin.
Non.
Et cette question et tout ce qui concerne les capitaux, le secret bancaire, c'est aussi une tentative de déstabilisation politique. Ça concerne aussi des personnalités politiques, ça concerne des États. Est-ce qu'on peut les ranger dans le même, est-ce qu'on peut les classer dans le même ordre que ces fuites, ces leaks dont on parle depuis tout à l'heure? De WikiLeaks.
Bah, en fait, le raisonnement que font les États, c'est-à-dire que faire une fuite de données contre un adversaire, c'est très efficace et ça coûte pas cher. Les entreprises et les fonds d'investissement font exactement le même raisonnement et ils ont raison. C'est très efficace.
Alors même que les lanceurs d'alerte, très souvent, fondent leur mythe, voire leur mythologie, sur la dénonciation d'un certain impérialisme, Jean-Philippe Feuglet.
Alors il y a peut-être un alors effectivement quand on regarde les films qui traitent des lanceurs d'alerte, ça traite souvent de lanceurs d'alerte qui travaillent dans le domaine de la défense. On voit notamment le film sur Snowden, on voit aussi les hommes du président qui concernaient aussi concernaient aussi ce type de lanceurs d'alerte. Pourtant, des lanceurs d'alerte qu'on peut recevoir à la maison de lanceurs d'alerte, c'est pas forcément des personnes qui touchent à des enjeux de ce type-là. Finalement, nous ce qu'on veut faire passer, c'est que le lancement d'alerte, les lanceurs d'alerte sont pas forcément des héros. C'est des personnes qui font ce qu'elles doivent faire. Et nous, le message qu'on cherche à faire passer, c'est que lancer l'alerte, ça doit être quelque chose de normal. Et c'est souvent, malheureusement, des personnes qui perçoivent des irrégularités dans leur entreprise ou qui perçoivent, par exemple, du harcèlement dans leur milieu de travail, vont pas forcément le dénoncer, en tout cas, vont pas se qualifier comme lanceur d'alerte, parce que pour eux, le lanceur d'alerte, c'est Edward Snowden, c'est Chelsea Manning, c'est Julian Assange, c'est quelque chose de beaucoup trop gros pour eux, alors qu'en fait, l'idée est qu'il faudrait qu'on soit dans une société transparente où chaque personne qui perçoit quelque chose qui ne va pas, qui perçoit quelque chose qui est contraire à l'intérêt général, n'hésite pas à le faire.
Comme cette jeune aide-soignante qui avait dénoncé les mauvais traitements dans un EHPAD, dans un envoyé spécial, et qui a été licenciée aussi sec. D'ailleurs, l'Union européenne a adopté mi-avril, donc tout récemment, de nouvelles règles pour protéger les lanceurs d'alerte qui dénonceront des infractions. Est-ce qu'on peut aussi parler de la géopolitique de la défense des lanceurs d'alerte? C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle des États qui utilisent les données et la fuite de données, mais choisir de protéger ou pas ce que j'appelle lanceurs d'alerte depuis le début de l'émission, mais vous sembliez dire que ça ne convenait pas à un Julian Assange, par exemple. Mais la géopolitique de la protection des lanceurs d'alerte, c'est quelque chose qui vous intéresse, Florent Parmentier?
On peut partir du principe que le goût des uns et le dégoût des autres. Partant de là, la Russie, sous la forme de l'Union soviétique, a pendant un certain nombre d'années entendu parler de ces dissidents, les régimes communistes également, donc ces dissidents qui allaient finalement dans le pays d'en face, tout simplement parce que inquiétés pour leurs convictions politiques. Il y a, je pense, de ce point de vue-là, une forme de revanche que la Russie a pu prendre en 2013, en se disant qu'une personne qui était là pour finalement faire partager un certain nombre d'éléments sur la surveillance massive qui était à l'origine de ce qui a été fait à la NSA. L'idée qu'ils puissent se réfugier en Russie ne fait pas de la Russie un pays plus démocratique, mais ça en fait un pays qui peut jouer sur une de ces tendances de fond qui consiste à finalement insister très souvent sur l'idée qu'il y a deux poids deux mesures. Il y a en quelque sorte, vous, si vous faites du renseignement, comme vous considérez que vous êtes des États démocratiques, vous considérez comme les gens bien, et nous considérez comme des régimes autoritaires, et donc nous aurions droit à ne pas avoir d'intérêt. Et il y a de ce point de vue-là, dans le discours russe, une forme de revanche qui est prise à l'occasion finalement de Julian Assange, enfin sur Julian Assange, qui a, rappelons-le aussi, été intervenu sur RT, Russia Today, la chaîne nationale. Il y a cette idée, Edward Snowden du reste également. Donc il y a cette idée qui est de dire, nous avons assez longtemps écouté vos leçons de morale, vous allez maintenant en fait être mis en face de vos contradictions. Et c'est ça qu'essaient de faire en fait les autorités politiques russes.
Là, vous parlez de la Russie, mais le Canada très récemment a décidé d'accueillir deux Philippines qui avaient caché Edward Snowden pendant sa fuite à Hong Kong. Pourquoi le Canada? Pourquoi maintenant?
Ça peut être lié tout simplement à la proximité de Stephen Harper à certains moments avec le gouvernement américain qui est certainement plus compliqué aujourd'hui. Enfin, les relations, en tout cas entre présidents américains et canadiens, sont pas au beau fixe. Donc, on peut imaginer que c'est là aussi les goûts des uns sont les dégoûts des autres.
Alors, l'Union européenne qui a adopté mi-avril ces nouvelles règles pour protéger les lanceurs d'alerte qui dénonceront des infractions, cette nouvelle législation européenne, elle concerne des informations qui seraient divulguées dans le cadre de domaines comme les marchés publics, les services financiers, la sécurité des produits, du transport, la sécurité nucléaire. Les questions de défense et de sécurité, elles, échappent complètement au champ de la direction. Est-ce qu'elles auraient dû ne pas, c'est-à-dire ne pas y échapper ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est incomplet, Jean-Philippe Feuglet?
Alors, tout d'abord, on peut quand même souligner que, actuellement, la protection des lanceurs d'alerte en Europe, c'est un peu comme la gruyère. Il y a plein de trous, c'est-à-dire qu'il y a plein de trous noirs. Il y a des pays qui protègent pas les lanceurs d'alerte. Grâce à cette directive, on va harmoniser toute la protection dans l'ensemble de l'Europe. Sur la défense nationale, on s'est opposé justement à ce que cette directive ne protège pas les lanceurs d'alerte dans le domaine du renseignement. Simplement, c'était très difficile de pousser en faveur de cette protection, d'une part, parce que c'était pas du tout évident que l'Union européenne avait compétence pour légiférer sur cette question. D'autre part, il n'y a aucun pays au monde, à part l'Irlande, qui protège les lanceurs d'alerte de type Snowden qui travaillent dans le secteur du renseignement. Et également, dans cette directive, on peut s'inquiéter aussi de la référence à la sécurité nationale. Il est dit, non seulement la directive ne protège pas les agents secrets en tant que tels, il y a une certaine logique à ça, mais en plus de ça, la directive ne protège pas les personnes qui révèlent des informations si celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Or, on l'a vu dans l'affaire Snowden, il y a aussi beaucoup d'acteurs privés qui manipulent ce type d'informations-là, et la référence à la sécurité nationale est problématique parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On sait ce que c'est le secret défense en France, par contre la sécurité nationale, c'est quelque chose de beaucoup plus large.
Surtout, Philippe Vasset, que la question de la source, elle est quand même primordiale. Enfin, est-ce qu'elle vous paraît primordiale? C'est-à-dire savoir qui est à l'origine d'une information qu'il a donnée pour ensuite pouvoir informer le grand public. Là, je vous parle en tant que journaliste, pour pouvoir informer le grand public de la façon la plus honnête possible.
Alors, pour répondre à cette question-là, en fait, qu'on a fait ce livre. C'est-à-dire que nous, on avait été destinataires, comme plein de journalistes, de fuites, et on en avait utilisé certaines, pas d'autres. Et
selon quels critères, pardon ?
Eh ben, justement, toutes ces histoires nous avaient laissé un goût d'inachevé dans la bouche, en fait. On voyait bien qu'il y avait la question de la source, de l'origine, en fait, des données, et surtout, c'est un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire de toute la chaîne, en fait, de l'information, du traitement de la fuite, les courtiers, par qui elle est distribuée, etc. Tout ça ne déterminait pas absolument l'information, c'est-à-dire que il y avait des informations qui pouvaient rester viables et intéressantes, même si on n'en connaissait pas la source, mais que essayer au moins de comprendre d'où ça venait, de ne pas complètement ignorer cet aspect-là, eh bien, ça nous semblait un peu une démission, en fait. Et que, dans pas mal d'histoires, quand même, comprendre d'où viennent les données, si elles ont été piratées ou non, par exemple, qui est quelque chose qu'on peut quand même arriver à savoir. Pour nous, c'était un critère important. Ça ne faisait pas changer les informations de nature, mais ça les éclairait quand même. Par exemple, le fait de savoir, je prends un exemple très simple, les Panama Papers. Le fait de savoir si c'est un piratage ou pas, ça change quand même beaucoup de choses. Le Mossack Fonseca, le cabinet qui a été visé, dit que c'est un piratage et a d'assez bons arguments pour le dire. Du coup, ça change quand même beaucoup de choses.
Ça change quoi alors ?
Ça change que ça veut dire que c'est une attaque hostile. C'est pas quelqu'un qui travaillait à l'intérieur de Mossack Fonseca qui l'ait fait fuiter. Donc, on est dans un rapport de force assez différent quand même. Et puis surtout, en creusant, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens dont c'était le métier, en fait, de faire du piratage et de vendre les données. On a beaucoup pisté un Indien qui avait industrialisé, en fait, qui avait transformé ça vraiment en une entreprise d'envergure mondiale. C'est quelqu'un qui travaillait à la fois pour des entreprises et pour des États, en fait, et qui vraiment livrait des solutions clés en main, de données, de fuites, etc. Et voilà, dire que ce type d'acteur existe, ça nous paraissait important.
Alors, est-ce que ces révélations en série auront contribué globalement à changer les rapports de force sur la scène internationale, Florent Parmentier? C'est finalement une question qu'on peut se poser, puisqu'à chaque fois qu'une révélation émerge, on se dit ça va créer le chaos. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, même si tout ça continue, est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que ça a changé des choses?
Alors, ça a changé des choses dans la législation européenne. Nous avons pu en parler avec cette idée effectivement que des personnes qui sont en situation de connaître des choses importantes et avec le devoir finalement de dénoncer doivent le faire.
Je peux te dire dans le jeu politique, quoi, le jeu géopolitique avec des puissances qui ne maîtrisent plus tout, qui ne sont plus dans la puissance de qui sont plus aujourd'hui dans une capacité de nuire plus qu'une puissance de faire.
Alors, il y a quelque chose de paradoxal dans ce débat qui est, il faut aussi rappeler également en toile de fond, que nous avons toute la problématique des nouvelles faussées. Fake news en anglais, mais fausse nouvelle, mais en réalité nouvelle faussée, car intentionnellement fausse. Ce que montre la question des lanceurs d'alerte, c'est ce qui est vrai, mais qui ne doit pas être révélé. Et ça participe finalement d'un grand débat de narration entre les différentes puissances. Et de ce point de vue-là, les deux sont intéressants. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'est pas seulement dans un horizon où on se balance finalement que des nouvelles faussées, mais qu'il y a également ces espaces de vérité qui sont intéressants. Et sur lequel effectivement, on est un peu dans ce débat qu'on a connu finalement après la Première Guerre mondiale avec la question de la diplomatie secrète, était-elle finalement bonne ou est-ce qu'elle a amené de bonnes ou de mauvaises choses. Il faut bien voir que là-dessus, il fallait éviter tout rapport manichéen, c'est-à-dire qu'il y avait parfois la nécessité de faire des alliances des alliances secrètes pouvaient être parfois mieux qu'une guerre ouverte en quelque sorte. Il en est de même pour les révélateurs, c'est-à-dire je pense que ce que nous pouvons dire, c'est que ça va globalement apporter de la transparence, parfois pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais qu'en la matière, il est très difficile de pouvoir dire que c'est unanimement mauvais ou unanimement bon.
Mais en attendant, les alliés, le reste, les pays alliés, le reste, et les fuites qui ont notamment révélé les bavures en Irak, en Afghanistan de l'armée américaine n'ont pas profondément modifié les relations entre notamment les pays européens et les États-Unis.
Jean-Philippe Fouquet. Je dirais même au contraire, enfin, si on est un peu cynique et qu'on regarde la question de la surveillance, par exemple, des révélations Snowden, tout le monde pensait qu'il allait y avoir un grand mouvement en faveur de la vie privée. Il y a eu des améliorations dans les législations européennes, il faut pas, enfin, on va pas se le cacher, mais en quelque sorte, le backlash des révélations Snowden, c'est que finalement, la vraie réaction des États européens, c'est de se dire, tiens, les États-Unis utilisent ça, pourquoi est-ce que nous, on le fait pas aussi? Et c'est pas non plus un hasard que dans beaucoup de pays européens, on a mis en place maintenant des technologies de surveillance qui sont proche de celle qui était utilisée aux États-Unis. Donc c'est toujours très difficile de prévoir vers quoi va déboucher une fuite, mais le cas Snowden montre aussi que finalement dans la chaîne de cause à effet, il peut aussi avoir des effets qu'on n'attend pas du tout à une fuite.
Donc ceux qui nous disaient vouloir rendre le monde meilleur ou en tout cas plus transparent, plus sain, n'ont pas pour l'instant vraiment réussi leur coup, Philippe Basset.
Si vous me demandez de trancher ça, c'est dur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une confusion de plus en plus généralisée, en fait, et que cette espèce de déluge ininterrompu d'informations apporte pas vraiment de transparence et de facilité. Par exemple, vous parliez des nouvelles faussées. C'est évident que on est en train de voir une convergence, en fait, de deux phénomènes, des fuites de données et des nouvelles faussées. C'est évident que, alors que jusqu'ici c'était pas le cas, dont les prochaines fuites de données contiendront des nouvelles faussées. En fait, c'est sûr que c'est la prochaine étape, parce que la fuite de données est quelque chose qui valide une information. Donc, le fait de mettre des nouvelles faussées dedans, c'est le coup ultime, en fait.
Ça reperturbe tout, donc il va falloir payer des gens pour défausser les informations faussées. C'est ça?
Oui. C'est, par exemple, si vous me donnez juste 30 secondes. Dans la rédaction d'Indigo, on a été une des seules rédactions à travailler très tôt sur les Macron Leaks. Donc ces emails qui avaient été piratés
à la toute fin de la campagne présidentielle.
Au sein de la, voilà.
De l'équipe d'Emmanuel Macron.
Et comme on était terrorisés qu'il y ait des nouvelles fossés dedans, en fait, on a tout revérifié et on a sorti que ce que les acteurs nous ont confirmé.
Et d'ailleurs, acteur qui n'était autre que, enfin, je sais pas si vous parlez d'eux, mais qu'on a quand même compris que c'était des militants d'extrême droite qui étaient à l'origine des fuites.
Les acteurs qui étaient mentionnés pour savoir comment, en fait, La République En Marche s'était financée.
Et l'exemple des Macron Leaks, c'est bien l'exemple que parfois, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau, ces fuites de données. Ils n'auront pas changé les grands équilibres juste avant la campagne présidentielle. Ça peut être la même chose peut-être au niveau mondial.
Oui, effectivement.
Florian Parmentier.
Je pense que de ce point de vue-là, on peut juste conclure effectivement sur l'idée que ça va vraiment, c'est vraiment au cas par cas, en fait, qui la généralisation devient très compliquée. La seule chose qu'on peut généraliser, c'est que finalement on ajoute une couche de complexité au monde actuel.
Merci beaucoup à vous trois d'être venus en discuter, en débattre ce soir. Florent Parmentier, on peut vous lire sur le blog eurasiaprospective.com. Jean-Philippe Feuglet, je rappelle que vous êtes coordinateur de la Maison des Lanceurs d'Alerte. Et puis Philippe Vasset, journaliste, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Pierre Gastineau chez Fayard, Armes de déstabilisation massive, enquête sur le business des fuites de données. Merci à l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Tricot, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo, Cyril Marchand, Joberto. Émission réalisée par Perret Legras, avec à la prise de son ce soir Pierrick Mancini.